Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous, c'est place à l'excellence dans le goût d'entreprendre, place également à la gourmandise avec la maison Pilon, chocolaterie toulousaine qui fête cette année ses 50 ans. Son PDG Hugues Salier est notre invité. Et on va beaucoup parler de la chocolaterie Pilon cette année. Votre actualité est dense et même très riche. Bonjour Hugues Salier.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la maison Pilon à Toulouse. 50 ans dans le chocolat, non pas pour vous, mais pour la maison Pilon. C'est une belle histoire. Depuis quand êtes-vous dans l'entreprise ?
J'ai repris l'entreprise en association avec Yves Turiès en 2001, septembre 2001. Ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être PDG d'une chocolaterie comme Pilon ?
Ben, ça veut dire être à la tête d'une petite entreprise artisanale, être présent, ouais. Veiller à ce que tous nos produits puissent amener du plaisir à nos clients et rester dans l'image de ce que M. Mme Pilon avait créé au niveau de leur société.
Il y a 50 ans.
Ouais, il y a 50 ans, en 67.
Alors, vous avez les mains dans le chocolat ?
Moi, non, je suis plutôt un homme produit. Je ne suis pas pâtissier de métier ni chocolatier. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans toutes les filières agricoles de qualité. Donc c'est par ce biais-là que je suis arrivé à la pâtisserie-chocolaterie parce que j'étais fournisseur de pâtissiers-chocolatiers.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai rencontré Yves Turiès parce que j'étais son fournisseur. Et ensemble, on a pris la décision de s'associer pour reprendre l'activité de Monsieur Mampilon. C'était un peu une gageure parce que il y avait une petite part d'inconscience au départ, vu la barre était très haute.
Vous avez osé.
Voilà, ouais, on a osé sans se rendre compte. Mais on a travaillé dur pour arriver à faire en sorte que l'entreprise que M. Mampilon nous ont cédé, qui était une petite entreprise artisanale, nous avons construit, je dirais, une entreprise solide avec un laboratoire technique, avec des hommes, avec des produits sélectionnés encore de mieux en mieux, avec une traçabilité sur tous les produits et avec une volonté de transmettre le savoir.
Transmettre le savoir, ça c'est important. C'est-à-dire transmettre à vos équipes.
Tout à fait. Le savoir, pour moi, c'est à la fois la façon de faire et la façon d'être aussi.
Ouais.
Dans l'état d'esprit, dans la manière de se comporter, dans un monde où les valeurs sont un peu attaquées, bousculées de tous les côtés, où la consommation change tous les jours. Donc, il faut s'adapter en permanence et c'est ce qu'on a essayé de faire par étapes. On a travaillé par étapes. C'est-à-dire qu'en 2001, on a repris l'entreprise. Pendant 2 ou 3 ans, on a pris un peu la température. On a regardé comment ça se passait. Le démarrage a été un peu dur parce qu'il y avait les travaux du métro qui nous ont fait perdre 35% de fréquentation sur le magasin d'Ozen. Il y avait à digérer aussi la négociation des 35 heures. Dans ce métier où on travaillait 50, 60, 70 heures, il a fallu passer dans un cadre maîtrisé. Donc les 3 premières années ont été un peu dures. Et malgré ça, venant du monde industriel où l'organisation est pour moi primordiale et les conditions de travail aussi, j'ai voulu absolument mettre en place un laboratoire digne de ce nom qui m'a permis de donner des conditions de travail correctes et d'hygiène indispensables et surtout d'arriver à trouver des professionnels qui veulent bien venir travailler dans la maison Pilon parce que à l'époque, 50 mètres carrés derrière chaque magasin, c'était des conditions un peu difficiles.
Petit laboratoire.
Voilà.
Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a été le plus, le plus excitant pour vous à ce moment-là ?
C'est l'expérience humaine. Ces 15 ans, pour moi, c'est une expérience et des rapports humains qui ont été extraordinaires avec quelques succès et avec quelques échecs. Hein. Malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups la nature humaine est ainsi faite. Mais c'est un beau résultat parce qu'actuellement, on a des responsables, chefs pâtissiers, chocolatiers, directeurs de production, chefs de magasin, qui sont là depuis 5, 6, voire 10 ans, voire 15 ans. Et pour moi, c'est la plus belle réussite. C'est l'homme qui fait l'entreprise.
C'est ça, c'est l'homme qui fait le chocolat.
Ouais.
Un chocolatier, en 2017, c'est un artisan qui ne connaît pas la crise. Le chocolat, ça fonctionne. Le chocolat de qualité, attention, entendons-nous bien.
Connaît pas la crise. Jusqu'en 2014, on n'a pas connu la crise parce qu'on était sur un créneau porteur de qualité haut de gamme. Après, est arrivée en 2014 quand même une situation un peu plus atone au niveau économique.
Ouais, ouais.
Et on a nous-mêmes été quand même un peu touchés. Et il s'avère qu'il faut absolument qu'on continue à satisfaire la promesse de l'artisan. Je veux dire par là qu'il faut arriver à faire en sorte que le client trouve une différence dans nos chocolats et dans la promesse que l'on fait par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs au niveau des franchises ou d'autres chocolats.
Ou en grande distribution, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui va faire alors, la différence pour vous, côté artisan, professionnel, et pour le consommateur aussi?
On a progressivement mis en place toutes ces bases. La première base, je vous disais, c'était en 2004, la création de ce laboratoire, qui nous a permis d'avoir des conditions de travail et d'hygiène irréprochables, qui nous a permis de travailler à fond notre tour de main. Yves Thuriès m'a toujours dit, ne pas mettre le tour de main au service des machines, mais les machines au service du tour de main. Donc on a beaucoup investi, mais pour faciliter le travail, tout en gardant notre tour de main. Tout est fait à la main. Que ça soit toute notre viennoiserie, nos fonds de pâte, nos feuilletages, la manière de cuire avec un ancien four, sol et voûte comme à l'ancienne.
Comme à l'ancienne, oui, c'est ça.
Voilà. Ouais. Comment faire nos macarons qui sont certes dressés par une machine, parce que c'est aussi bien de les dresser par une machine, ça n'empêche rien, mais cuits à chaleur tournante, qui sont surveillés comme ça. Après, comment travailler, je dirais, tous nos gâteaux, nos entremets, avec... À l'appui, je dirais, on se sert énormément du froid négatif parce que ça nous permet d'éviter d'avoir tous les stabilisants, tous les conservateurs, ainsi de suite. Donc on lutte pour ne rien mettre dans nos gâteaux et avoir quelque chose qui se consomme en ultra frais dans la semaine.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très important. Après, un homme de qualité pour vous, comme vous.
Je suis homme produit. Donc, oui. Le deuxième point après le laboratoire a été la sélection des produits. On a travaillé sur comment sélectionner nos matières premières, comment les améliorer, que ça soit sur les produits directs, régionaux, que ça soit sur le chocolat ou le sucre,
sur les fèves, ouais,
ou
ouais.
Les fèves qui sont des produits d'approvisionnement mondial, et on a mis en place une stratégie. Donc on a une double stratégie sur ce que j'appellerais les fournisseurs services, les fournisseurs régionaux, où on a joué la proximité. Ça va par la famille Torrent qui nous produit les fruits rouges et qui nous les sert du jour au lendemain en venant de Saint-Céré dans le Lot. Ça va par la famille Villeneuve qui nous procure les œufs et qui sont, je dirais, nourris par le maïs gersois sur la production, sur la propriété, et qui nous livre les œufs dans la foulée, avec Gers Farine au niveau des farines, et ainsi de suite. Donc on essaye de travailler tant qu'on le peut sur les fournisseurs locaux, une approche que j'appellerais durable. J'aime pas trop le mot équitable parce que ça va trop loin, mais c'est durable, dans un souci, je dirais, de proximité. Et après, en ce qui concerne les produits qui sont dans un approvisionnement lointain et mondial, notamment la fève de cacao, on avait un gros dilemme. Est-ce qu'on restait dans les mains de grosses sociétés qui vous amènent tout le service, le marketing, mais qui en contrepartie vous font aussi une concurrence? Donc j'ai imaginé la rue du chocolat dans les 10 ans à venir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener comme différence par rapport à toutes ces grandes marques qui nous servent et qui viennent en même temps nous faire concurrence?
C'est ça.
C'était trouver des filières d'approvisionnement où on aurait l'exclusivité et on n'aurait personne en face de nous, avec une différence qualitative des fèves. Ça veut dire qu'on a la traçabilité de nos fèves du producteur jusqu'à nos magasins. Pour cela, on est passé avec des accords sur 3 sociétés. Une société française qui s'appelle la Chocolaterie de l'Opéra, anciennement Valrhona. Une deuxième société qui s'appelle De Mori, qui est le groupe Agrimontana en Italie, au sud de Turin. Où là, on a, un agronome fou qui, pendant 30 ans, a cherché des fèves de cacao, qui est allé chercher les meilleures fèves du monde depuis 30 ans. Il a travaillé pendant 30 ans. Et il nous a amené des fèves de cacao extraordinaires. Simplement, il avait oublié de les transformer, de les commercialiser. Donc, il s'est associé à un groupe ILI qui lui a donné les moyens d'avoir une usine de 3800 m² pour les transformer dans dans l'axe et de la qualité de ce qu'ils voulaient. Et la troisième société, c'est une société qui est suisse, Felsching, qui est exactement dans la même démarche. Elle travaille avec sept pays, sept groupes de producteurs différents dans chaque pays, où depuis 30 ans, elle a des accords, et tous les 7 ans, elle renouvelle ses accords.
D'accord.
Ça veut dire que je pourrais vous faire le cinéma en disant je suis le gringo, je suis allé sur la place, j'ai des photos avec
les
fèves de cacao et tout ça,
c'est
extraordinaire. Ouais. C'est pour me rassurer, c'est pour y aller, c'est pour comprendre comment il fallait travailler. Mais à côté de ça, je me suis, affilié à trois sociétés de niveau économique équivalent à la nôtre, qui veuille bien travailler pour les artisans, nous amener des produits, et des produits de qualité, donc des fèves de cacao fin, de qualité.
Vous êtes quel type de manager ?
Je dirais autodidacte, tout en ayant fait une école de commerce, mais quand même autodidacte. J'ai testé un peu ma manière de gérer à travers plusieurs entreprises et j'ai eu la chance de travailler avec un patron qui était chez Yoplait au tout démarrage de ma sortie d'école de commerce et qui m'a formé, je dirais, dans la confiance et la délégation. Ça veut dire que c'est par la formation qu'on arrive à faire en sorte que les hommes vont pouvoir évoluer. L'important, c'est d'investir dans l'homme et dans son potentiel. Et derrière, lui amener les valeurs et le cadre de travail. Donc bien définir le cadre de travail, bien définir les valeurs de l'entreprise, et à partir de là, savoir déléguer et faire confiance.
Ça veut dire que chez vous, les gens restent, il n'y a pas de turnover ?
Il y a du turnover. On est dans un métier pâtissier où il y a énormément de turnover. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils sortent de l'apprentissage, on leur explique qu'il faut aller voir. Moi, je serais un peu différent dans l'approche. J'aurais tendance à leur dire, quand tu sais faire, tu vas voir autre chose. Mais apprends à faire, au lieu de voir. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'avec tous nos apprentis, on essaye de leur donner un projet. Un projet à 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de leur volonté. Et ce projet nous permet de les former, de leur apprendre, de leur apprendre le savoir et le faire. Après, à eux de se débrouiller pour faire savoir et le faire faire.
Faire savoir et qu'ils savent faire.
Voilà.
On a compris.
Voilà.
Merci, Célie, vous restez avec nous. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et seconde partie du goût d'entreprendre avec Hugues Salier de la Maison Pilon, chocolatier de renom, installé à Toulouse. Bonjour Pierre-Yves Réveillon.
Bonjour Doris.
On l'abordait il y a quelques instants, c'est important la notion d'entreprendre, bien évidemment. On va y revenir tout au long de cette émission, mais également de transmission. C'est un mot qui vous a interpellé.
Qui m'a interpellé. Il se trouve que ce matin, je suis tombé sur un article de La Dépêche de 2015 où vous disiez que c'était difficile de trouver des vendeurs et des ouvriers, et vous donniez une explication. L'essentiel du chiffre d'affaires se fait durant les fêtes de fin d'année. Il faut travailler les week-ends, parfois la nuit. On veut bien travailler, mais pas contraindre sa vie, etc. C'est un métier en tension, le métier que...
On est en décalage par rapport à l'évolution de notre monde et notre vie et de la manière dont les jeunes maintenant veulent vivre. Je dirais que je suis allé jusqu'à lire et essayer de comprendre un peu la génération Y. Qui est pour nous, je dirais, une problématique. Ça veut dire que l'implication à vie dans une entreprise n'est plus un objectif. Par contre, quand il s'implique à fond. Mais combien de temps ça va durer, on ne le sait jamais. Du jour au lendemain, le tablier peut être posé sur la table et partir. Même si on a un enfant, même si on a acheté une maison, je l'ai vécu, c'est du vécu que je vous parle. Même si on ne sait pas où on va au mois de septembre, en juin, on donne sa démission. Alors qu'on a construit, on a bâti ensemble, on a formé des jeunes qui ont 25, 27, 32 ans et qui partent comme ça. Après, au bout de peut-être 6 mois, 1 an, ils ont envie de revenir. Mais là, c'est trop tard. Malheureusement, on ne peut pas refaire le monde. Donc ce monde évolue en termes d'état d'esprit et de continuité dans le désir des hommes. Et ce monde évolue aussi dans les modes de consommation. Vous parlez des fêtes, mais triste à dire, le dimanche se réduit un peu comme peau de chagrin. Malheureusement, les repas de famille sont de plus en plus restreints. On les trouve encore à Noël, à Pâques, sur les deux grandes fêtes, mais sur les moments festifs de fin d'année ou les moments de fête, notamment du dimanche, ça se trouve de plus en plus réduit. Voilà.
Pierre, il y avait une autre question.
Je continue sur cette question de l'emploi. Vous disiez aussi, c'est un peu un métier de maso, exigeant qualité, régularité et passion. C'est quoi le plus important ?
Je dirais la passion. Quand j'embauche quelqu'un, je donne l'étymologie du mot passion en grec et en latin, qui vient du mot pâtir. Alors, il ne faut pas être, il faut prendre ces mots avec précaution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire une culture, la passion et la souffrance. Mais c'est un métier où il faut savoir souffrir pour pouvoir avoir des satisfactions. Et donc il faut arriver à travailler très régulièrement, être là présent tous les jours. La qualité pour moi c'est la régularité. Donc on a beaucoup de plaisir quand on sort un très beau produit, quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on sort un mariage avec une pièce montée où on a des retours et des remerciements. Ceci étant, je dirais qu'il y a besoin d'être là en permanence. Et ce que je dis à mes équipes, ne me faites pas l'Everest tous les jours, faites-moi le Mont Blanc, ça suffira, mais faites-le moi tous les jours.
Donc l'excellence tout de même.
Oui, l'excellence.
Normal.
On est là. Notre formule pour nous, c'est l'excellence à travers le goût et le naturel. C'est le leitmotiv de la maison Pilon. L'excellence est toujours l'excellence au niveau du tour de main, du savoir-faire, de la transmission. Et je dirais le goût, le naturel, dans le respect des produits et le respect du côté naturel des choses. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas le clinquant, on cherche le vrai.
C'est ça.
Voilà, ouais. Les vraies valeurs.
Alors, s'agissant de cette excellence, vous avez formulé 4 engagements qui sont quand même très forts. Vous avez déjà évoqué un certain nombre d'entre eux. Alors, je voudrais peut-être en aborder un dont vous n'avez pas encore trop parlé. Être éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, être éco-responsable pour vous ?
Mais pour nous, être éco-responsable, c'est tout l'approvisionnement de tout ce qu'on peut, je dirais, trouver comme produits régionaux le plus près possible. Et on a, je dirais, une petite cinquantaine, voire centaine de producteurs avec qui on travaille en direct et le plus près possible. Pour ce qui est du reste, on travaille avec des grossistes. On ne cherche pas à avoir des gros marchés, chercher du prix pour le prix. Mais on cherche surtout à avoir des vrais produits et des vrais produits le plus naturel possible.
Et vous jouez principalement sur le territoire local, bon, pas le chocolat bien sûr en lui-même,
ouais.
Est-ce qu'il y a des produits que vous arrivez à approvisionner vraiment très près de...
Ah oui, pratiquement tous nos produits sont par des grossistes ou des producteurs locaux, quoi.
Vous avez votre propre réseau qui est fidélisé, qui travaille pour vous.
On travaille régulièrement, on ne cherche pas le prix, on cherche la qualité. On cherche essentiellement la qualité. Les critères que je donne à mon pâtissier, c'est d'abord de définir la qualité dont il a besoin. Et dans cette qualité, on va chercher un prix, mais pas plus. Et on ne va pas chercher à avoir, je dirais, des gros marchés. D'abord, on pèse presque rien. On est 3,8 millions de chiffre d'affaires, donc on ne pèse rien en termes de capacité d'achat par rapport à tout ce qui peut être fait par ailleurs. Donc on ne cherche pas à négocier un contrat annuel en dehors du chocolat et des produits laitiers. Le reste, on est au jour le jour sur une qualité et sur des produits qui sont le plus proches possible.
Alors j'ai entendu tout à l'heure, vous avez tiqué un petit peu sur le mot durable, équitable. Vous avez dit équitable, j'aime pas trop, je préfère durable. Vous pourriez développer un petit peu ?
Mais ayant vécu dans les filières agricoles de qualité depuis longtemps, j'ai travaillé dans les labels, j'ai travaillé dans l'approche bio à ses premiers jours, il y a une vingtaine d'années. Et je suis craintif du terme équitable et des organismes de certification. Je dis qu'il y a beaucoup de marketing, que ça peut coûter cher de par la certification, et je crois beaucoup plus à l'authenticité et aux autocontrôles des producteurs qui veulent vraiment être, je dirais, des producteurs durables, que la certification pour la certification. Et j'en veux pour exemple aussi, à notre niveau, le terme ISO est un terme qui va très très bien sur les produits industriels, sur des grosses quantités, sur des grands volumes, sur un métier qui est le nôtre, qui est le métier artisanal, au-delà de la méthode HACCP, c'est-à-dire des points critiques qu'il faut surveiller, je dirais on n'a pas les moyens de mettre en place tout ça. On n'a pas les moyens, et en plus de ça, je ne veux pas le faire payer à mes clients.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, enfin je vais peut-être dire une bêtise, est-ce qu'il n'y a pas dans le domaine de la chocolaterie l'équivalent de ce qu'on appelle les appellations contrôlées, par exemple pour le vin? C'est quand même des produits haut de gamme que vous
faites,
labels, ça n'existe pas.
Par nature, le chocolat, et notamment le chocolat de cacao fin, est fait par des petits producteurs qui sont perdus dans la nature. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la fève de cacao est enfermée dans une cabosse. Donc, au-delà d'avoir des traitements chimiques au niveau du terrain, et donc que le cacaoyer aille chercher ses produits, actuellement, on est dans la forêt tropicale, dans des terrains qui sont meubles et neutres. Et à partir de là, je dirais, pour le moment, au niveau du cacao fin, on n'a pas trop de crainte à avoir. Par contre, il s'avère que maintenant, il y a une demande qui est de plus en plus forte. Il y a des cacaoculteurs, comme les viticulteurs, qui sont en train d'acheter des terrains, de mettre en place des espèces. Et là, il va falloir être un peu plus exigeant et, et contrôler de plus près.
Des fèves de cacao OGM? C'est ça?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on est allé faire un petit tour au Brésil. Il y avait un centre de recherche avec une centaine d'ingénieurs qui travaillaient sur 1800 espèces différentes. Ils ont été traumatisés par une maladie qui s'appelait le balai de la sorcière et qui a détruit pratiquement toute leur production et de numéro 2 de la production mondiale. Ils sont tombés à la 10e ou à la 7e ou à la 8e. Ils sont en train de remettre en place tout ça. Et il s'avère qu'ils font des recherches pour arriver, je dirais, à progresser. Progresser en termes de qualité, progresser en termes de productivité.
De rendement, oui.
Dans la mesure où, au niveau du cacao fin, les petits producteurs ont des rendements très très faibles de par la nature même du produit et des espèces. Et donc, la manière, je dirais, leur niveau de vie est en conséquence un peu mis en cause par moment. Et dans certains pays, ils avaient commencé à déplanter le cacao pour faire autre chose, du café, de l'EVA, voire de la banane, ou ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit prudent sur le niveau auquel on paye le cacao fin aux producteurs en fonction de leur qualité et du rendement qu'ils ont.
Tout
pour
à
arriver
fait.
À faire qu'ils s'en sortent. Moi, le durable, je le vois là-dedans. Et je ne le vois pas à travers les intermédiaires qui peuvent, je dirais, acheter pas trop cher et se servir en vous proposant de l'équitable. Voilà. Si c'est pour répondre à votre question.
C'est vrai que des fois, on joue un peu sur les mots, c'est vrai.
Voilà. Donc, je suis très, très prudent à travers tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu une dizaine de filières, que ce soit les fruits et légumes, produits laitiers, charcuterie, foie gras, fruits secs, qui m'a fortement ouvert les yeux au niveau des astuces et des manières dont les intermédiaires peuvent se servir au passage.
Oui, et utiliser les mots, voilà. Effectivement. Comment vous voyez l'entreprise dans les années qui viennent? Vous allez transmettre? Vous avez envie de passer la main?
Oui, ben j'ai 67 ans. Il faut que, comme je vous ai dit, depuis 2 ans, l'encadrement sait qu'un jour ou l'autre, je vais partir. Donc ça, c'est une nécessité. Moi, j'ai besoin aussi de prendre un peu de distance et de repos, parce que ça a été quand même 15 ans de sacerdoce où j'ai mis ma vie privée un peu de côté et où 7 jours sur 7 et 15 heures par jour j'étais présent. Donc là, depuis 2 ou 3 ans, j'ai la chance de pouvoir avoir délégué et de prendre un peu plus de temps pour moi, mais il faut que cette entreprise continue. Alors nous sommes, la définition de la maison Pilon, c'est un artisan pâtissier chocolatier. J'insiste sur pâtissier chocolatier parce que on a une volonté et on a une sensibilité aux produits frais. Et le produit ultra frais de par la pâtisserie. Et on travaille le chocolat en ultra frais aussi. C'est-à-dire que toutes les semaines, on produit. D'accord. Donc à partir de là, on est uniquement sur la région de zone de chalandise de Toulouse, donc 3 magasins en centre-ville et 4 magasins autour de Toulouse, dans la mesure où les gens descendent de moins en moins sur Toulouse et on est allé vers eux pour leur amener un service. Après, on a des projets que j'ai caressés, qui étaient sur des espaces et des zones de chalandise avec un potentiel où notre savoir-faire peut nous amener à nous développer, voire j'avais étudié sur Barcelone et l'Espagne, ce qui est toujours au goût du jour, que j'ai mis en suspens parce qu'on a ouvert à Blagnac, et aussi à Londres, mais à Londres, là, avec le Brexit, il va falloir attendre un peu pour voir, mais il y a un potentiel énorme.
Tout à fait, il y a une demande, oui,
voilà.
Effectivement. Ouais.
Donc l'idée, c'était surtout non pas d'exporter, de fabriquer à l'extérieur, c'est de développer notre savoir-faire vers l'extérieur, en faisant travailler au maximum notre laboratoire toulousain.
Merci beaucoup pour toutes ces informations très riches. Oui. Merci à vous, bon anniversaire.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence. Vous souhaitez nous joindre, entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.